Tu as probablement entendu parler de Covid Tracker, ce site qui a permis de suivre très vite l'évolution de la pandémie. Covid Tracker propose des analyses statistiques et des tableaux de bord très simples. Ils sont faciles à comprendre et surtout, ils offrent une mise en perspective beaucoup plus juste que les chiffres repris, parfois sans aucun recul, par de nombreux médias et journalistes. Tu as aussi entendu parler du site VitmaDose. Ce site a permis et permet à de très nombreuses personnes de trouver très facilement une dose de vaccin disponible rapidement et à proximité de chez eux. Ces deux sites sont l'œuvre de Guillaume Rosier. Un data scientist très talentueux qui, avec l'aide de la communauté qui l'a rejoint, a réussi un tour de force en amenant des services gratuits et à très forte valeur ajoutée pour tous avec l'aide de l'open data, de la data visualisation. Avec la Redacroom, on a eu envie d'en savoir plus en invitant Guillaume Rosier, le fondateur de Covid Tracker et VitmaDose. Bonjour Guillaume, comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien et toi, PPC ?
Eh ben, ça va très bien, c'est la grande forme. On va te poser quelques questions et donc on est dans un exercice totalement live aujourd'hui. Pour te lancer, on va prendre les questions des uns des autres. Vous qui êtes sur YouTube, Twitter, Twitch, n'hésitez pas à mettre vos questions. Si vous voulez intervenir sur Spaces, c'est aussi du bonheur. On est parti. Première question pour toi Guillaume, comment t'es venu l'idée de monter cette folle aventure?
Eh ben alors ça, c'est assez rigolo parce qu'en fait, alors je vais te décevoir, l'idée ne m'est jamais venue. Donc en fait, ça s'est fait très progressivement, très naturellement. Ça a commencé vraiment au tout début, début mars 2020. Alors juste pour remettre dans le contexte, début mars 2020, on parlait très très peu de l'épidémie en France. Quelques jours plus tard, le 9 mars, l'Italie était confinée. Quand l'Italie était confinée, c'était une onde de choc. On pensait pas un jour qu'un pays européen pouvait être confiné. Et puis quelques jours plus tard encore, huit jours après, la France a été confinée. Et puis même deux jours avant que la France soit confinée, les bars et les restaurants étaient ouverts. Et on n'imaginait pas que deux jours plus tard, on pourrait être confiné. Voilà pour le contexte. Et donc moi, à ce moment-là, début mars, j'ai commencé. On sentait que ça commençait à devenir un peu tendu, notamment en Italie. Et donc là, je me suis dit, en fait, quelle est la situation de la France? Est-ce qu'on est vraiment épargné? Est-ce que ça va si bien en France? Et donc, j'ai récupéré des données sur le Covid qui étaient agrégées notamment par une université aux États-Unis qui s'appelle Johns Hopkins. Et donc, j'ai commencé à faire les premières visualisations de données parce que je ne trouvais pas ces visualisations dans les médias ou ailleurs sur Internet. Donc, je les ai faites moi-même. Et donc c'est un graphique tout simple, hein, tout bête, le nombre de cas positifs en France et puis dans d'autres pays, notamment en Italie. Et donc là, ça m'a un peu choqué parce que j'ai remarqué qu'on avait la même dynamique que l'Italie, c'est-à-dire la même exponentielle, la même explosivité. Et donc ça m'a beaucoup surpris parce que ça contrastait avec l'ambiance générale en France. Et donc j'ai envoyé cette visualisation à quelques amis, à de la famille. Et puis ces personnes-là ont rapidement été intéressées pour avoir une mise à jour le lendemain, le surlendemain, etc., pour voir si la situation continuait dans la même direction. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre de refaire cette visualisation, de l'envoyer à toutes ces personnes à la main. Et donc j'ai décidé de faire un site internet. Alors au début, le site internet était très très artisanal, hein. C'était en fait une page blanche avec un graphique. Et puis après, de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois, il s'est étoffé. On a rajouté d'autres visualisations, d'autres pages, d'autres fonctionnalités, des outils, etc. Et puis aujourd'hui, c'est des dizaines de millions de vues, c'est une dizaine de millions d'utilisateurs chaque mois. Enfin, ça a complètement dépassé nos espérances. On n'avait même pas d'espérance, à vrai dire. Et puis d'autres plateformes ont été créées, comme par exemple VitmaDose, hein, qui permet de trouver un créneau de vaccination plus rapidement et plus facilement. Donc voilà pour l'histoire accélérée en un an.
Ouais, fabuleuse histoire accélérée, merci beaucoup. Le plus gros challenge que tu as rencontré?
En fait, moi, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, mais je ne suis pas du tout développeur web. Donc c'est un peu comme si on compare, un chirurgien avec un médecin généraliste, quoi. Donc, je n'étais pas capable de faire un site internet et je me suis retrouvé à devoir faire un site internet. Donc, j'ai dû apprendre. Donc ça, en soi, c'était déjà un beau challenge de devoir apprendre le développement web pour créer un site internet, l'héberger, faire en sorte que l'hébergement tienne la charge ensuite. D'ailleurs, ça aussi, ça peut être un deuxième challenge, hein, parce que rapidement, on a fait face à des problèmes c'est-à-dire qu'on avait beaucoup trop d'utilisateurs, hein, donc il fallait tenir la charge. Et notamment à l'automne, hein, en octobre, notre premier gros challenge, c'était une émission. Les émissions à la télé, c'est le pire parce que ça amène un flux d'utilisateurs d'un coup, en même temps, en simultané. Et donc, c'était notamment Quotidien sur TMC qui nous a amené environ 100 000 personnes en simultané. Donc ça, c'était un gros challenge, mais a priori, le site a tenu, donc on est arrivé à le relever. Puis après, le dernier challenge, c'est Vitmados, parce qu'on a dû développer des algorithmes pour détecter, pour scruter les plateformes de réservation et pour détecter les créneaux disponibles. Et ça, c'est des algorithmes qui ne sont pas forcément évidents à faire et des techniques que je ne connaissais pas forcément. Donc ça aussi, c'était un challenge. Après, il y a des challenges qui ne sont pas techniques aussi. Hein. Par exemple, pour obtenir des données, ça nous pose régulièrement des challenges. Les données de vaccination, notamment début janvier, n'étaient pas publiées, n'étaient pas publiques. Et donc ça, c'est un challenge pour nous de faire en sorte que les administrations, en l'occurrence le ministère de la Santé, Santé publique France, publient ces données et les publient en open data, donc dans un bon format, de façon exhaustive, etc. Et puis on a toujours des challenges. Hein. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'aimerais bien avoir les données sur les personnes vaccinées, c'est-à-dire les données épidémiques, le nombre de cas parmi les vaccinés, le nombre de personnes hospitalisées parmi les vaccinés et le nombre de décès parmi les vaccinés. Voilà, et ces données aujourd'hui ne sont pas disponibles.
Alors, comment tu t'y prends pour les obtenir? Tu tapes à la porte, tu rues dans les brancards, tu fais comment pour arriver à faire en sorte qu'ils libèrent finalement ces données qui sont font partie du bien public? Donc c'est vraiment de l'open data. Tu fais comment?
Alors il y a pas de recette magique. On a plusieurs leviers quand même. Le premier levier, c'est que on harcèle de mails. Donc on envoie beaucoup de mails aux différentes administrations, à Santé publique France, au ministère. Enfin voilà, on envoie beaucoup de mails pour leur faire des demandes sur des données qu'on aimerait avoir. La deuxième chose, c'est qu'il existe des plateformes qui permettent de faire des demandes plus ou moins officielles, notamment madada.fr. Et donc ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des demandes sur madada.fr, notamment Elias Orphelin, hein, qui est contributeur de Covid Tracker, en fait régulièrement. Là en l'occurrence, il en a fait une pour les données que je viens d'évoquer, hein, qui sont donc les données épidémiques et sanitaires sur les personnes hospitalisées. Et ensuite les administrations concernées ont 30 jours pour répondre. Donc favorablement ou défavorablement. Et donc ça c'est un deuxième levier. Un troisième levier, c'est d'utiliser la parole publique, hein, donc de faire des tweets, d'en parler dans les médias. C'est dommage d'en arriver là, mais ça fonctionne. C'est plusieurs fois des jeux de données ont été ouverts ou ça a aidé à ouvrir des jeux de données parce que je l'ai évoqué sur une chaîne de télé ou parce que je l'ai évoqué sur Twitter de manière publique et que ça avait été pas mal liké. En tout cas, ça pousse à faire réagir des personnes à des niveaux assez hauts dans l'État et donc à accélérer les processus.
Question d'Olivier, il est sur Twitter, il te demande « Avez-vous eu des problèmes sur la publication des données publiques de manière non officielle ?»
Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question.
Toi, c'est forcément les données publiques où tu as eu accès à des données qui n'étaient pas forcément publiques et que finalement tu as réussi à publier.
Alors, la question, c'est est-ce que du coup, on a utilisé des données qui ne sont pas officielles?
Oui, c'est ça. Je pense que ça doit être autour de ça, oui.
Alors, oui et non. Enfin, aujourd'hui, 99%, enfin même 100% de ce qui est utilisé sur Covid Tracker et les autres plateformes sont publiques. C'est-à-dire que c'est des open data, c'est des données qui sont publiées sur les sites de ministères, de l'INSEE, de Santé publique France, vraiment des différentes organisations publiques. Ça n'a pas toujours été le cas, enfin, la très grande majorité du temps, ça a été le cas. Pas toujours. Typiquement, pour les données de vaccination, on a eu une période d'environ 2 semaines où eh ben, il n'y avait aucune donnée publiée, même pas publiée dans les médias, même pas publiée par voie de communiqué de presse, même pas publié en open data, enfin, il n'y avait rien. Là, on a utilisé, au début, en fait, on a collecté nous-mêmes les données. On prenait la presse régionale et on additionnait tout le nombre de vaccinés dans chaque article de presse régionale et donc dans chaque EHPAD, à l'époque, c'était que les EHPAD, dans chaque EHPAD de France. Et puis après, petit à petit, en fait, le ministère a proposé de m'envoyer les données. Alors en fait, en m'envoyant les données, il m'envoyait un chiffre, hein, c'est-à-dire le nombre de vaccinés en France, quasiment tous les jours. Et donc à partir de là, en fait, il nous l'a envoyé directement et on a utilisé ça pour Vaccin Tracker, qui permet de suivre la campagne vaccinale. Et donc là, en fait, on a une période d'environ 15 jours où on a utilisé des données qui n'étaient pas publiques, enfin qui étaient officielles mais pas publiques, qui nous étaient envoyées en privé par le ministère, jusqu'à ce que 2 semaines plus tard, on décide d'arrêter de les publier parce qu'on considérait que c'était évidemment bénéfique, enfin on était en période d'urgence, tout se mettait en place, etc. Donc on a considéré que c'était pas anormal, que voilà, que qu'il faille un peu de temps pour mettre en place l'open data et la publication des données. Mais au bout de 2 semaines, on a considéré qu'ils auraient dû avoir le temps. Et donc, on a arrêté de publier ces données-là. Et le jour même, ils ont fait un communiqué de presse. Et le lendemain, l'open data était en place. Et donc, le lendemain, on a ensuite branché Vaccin Tracker sur l'open data.
Tu as été rejoint par une très belle communauté qui t'a rejoint dans cette aventure. Ça a commencé combien de temps après que tu te sois lancé, cette communauté qui t'a rejoint ?
Finalement, assez tard. Assez tard, mais parce que j'ai pris l'initiative au sérieux assez tard. C'est-à-dire que ça a commencé en mars 2020, mais finalement, avant l'automne 2020, moi, je ne prenais pas le truc au sérieux. C'est-à-dire que je me disais que c'était un site internet fait de façon artisanale le soir, le week-end, parce que je rappelle que j'ai un métier. Et donc, tout ça est développé le soir, le week-end, entre midi et deux, en dehors de mon activité principale. Et donc, en fait, je me disais, ça peut pas être une des plateformes les plus populaires pour suivre l'épidémie en France. Enfin, en fait, je pensais pas que ce serait à moi de la faire. Je me disais, l'État va faire quelque chose, des privés vont faire quelque chose, mais qui ont plus de ressources que moi ou plus de compétences en web que moi. Donc, je prenais pas du tout l'initiative au sérieux. Et c'est aussi pour ça qu'il y a assez peu de personnes qui m'ont rejoint au début. Il y en a deux quand même, c'est-à-dire qu'on était trois, en gros à l'été 2020 on était trois. Une personne, Philippe Brouard, qui fait évoluer un modèle épidémio pour comprendre l'épidémie et essayer de l'anticiper, et donc qui écrit des articles sur Covid Tracker. Et puis Nicolas, qui s'occupe de la partie administration système et qui a fait plein de choses pour concernant l'hébergement, pour faire en sorte que le site tienne la charge. Voilà, et puis ensuite, après, à l'automne, donc là, j'ai pris un peu plus au sérieux l'initiative, elle a commencé à être un peu plus médiatisée. Et donc là, il y a une dizaine de personnes qui m'ont rejoint, naturellement, hein, bénévolement, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de recrutement, quoi. C'est des personnes qui m'ont proposé leur aide et j'ai accepté bien volontiers. Et puis, plus récemment, fin mars, début avril, suite au lancement de Vitmadose, on avait besoin de beaucoup plus de compétences. Donc là, j'ai fait un appel à compétences sur Twitter et il y a une centaine de personnes qui nous ont rejoints. Donc aujourd'hui, on est une centaine, un peu plus même. Sur la centaine, tout le monde n'est pas ultra actif. Hein, chacun participe en fonction de son temps disponible et de son envie. Mais donc, on a plusieurs dizaines de bénévoles qui sont très actifs quasiment au quotidien pour développer et pour faire évoluer les différentes plateformes.
Une question de Marion, tiens. Comment le gouvernement a-t-il réagi à ton initiative ?
Écoute, je ne sais pas. Il faut lui demander. J'en sais rien.
Ils t'ont aidé, ils t'ont facilité les choses. Ils ont fait en sorte d'attendrir un peu ceux qui ne voulaient pas lâcher les données. Comment ça s'est passé ?
Olivier Véran m'a appelé début janvier 2020 pour me féliciter, enfin pour me dire qu'il trouvait Covid Tracker était une super initiative, me dire qu'il trouvait ça super, très clair, très créatif, et vraiment me féliciter. Et puis pour m'évoquer la campagne de vaccination, qui était à l'époque, la stratégie était beaucoup moins claire que maintenant. Et puis pour me parler des difficultés de collecte de données, de sa volonté de les mettre en open data. Ensuite, j'ai eu un message privé d'Emmanuel Macron, pareil, pour me féliciter et pour m'encourager à continuer. J'ai pas non plus beaucoup de contacts en dehors de ça. Il y a Cédric O qui m'a reçu la semaine dernière. Et suite à ça, d'ailleurs, donc Cédric O, secrétaire d'État au numérique. Et puis suite à ça, il a donc proposé mon nom pour l'Ordre national du mérite. Donc, enfin, pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Donc, je peux pas répondre plus précisément que ça sur la réaction du gouvernement. Notamment, en fait, Olivier Véran, je lui ai demandé à plusieurs reprises de publier des données, ce qui en général a été fait. Voilà, donc je pense qu'ils essayent d'aller dans la bonne direction.
Question de Laura sur YouTube. Elle nous dit, il n'y a pas une loi qui oblige les pouvoirs publics à tout mettre en open data d'ailleurs. Elle parle, je pense, de la loi Le Maire. Pourquoi ça a été aussi difficile?
Alors, c'est une excellente question. Cette loi, donc c'est la loi numérique 2016, je pense, loi République numérique.
Oui, je pense que c'est celle-ci, oui, Alain. Ouais.
Et donc, alors, je ne sais pas précisément ce que demande la loi, mais en tout cas... elle va évidemment dans la bonne direction, mais en tout cas, elle n'est pas suffisamment appliquée, je pense, par les différentes administrations. Et donc, ça, c'est un réel problème. Je pense que, en fait, on est encore dans l'ancien état d'esprit qui consistait à dire on publie, la norme, c'est la non-publication des données, et puis l'exception, c'est la publication si. On remarque que tel ou tel jeu de données peut éventuellement être utile, alors on le publie. C'est dommage, hein, parce que je pense qu'on gagnerait beaucoup à vraiment entrer dans le nouveau paradigme qui consisterait à dire la norme, c'est la publication, et puis l'exception, c'est la non-publication si des données ne correspondent pas au respect de la vie privée, etc. Ce qui est évidemment très, très important. Et alors, les choses, je pense, évoluent. Il y a eu l'année dernière un rapport qui a été demandé par le gouvernement et qui a été effectué par un député qui s'appelle Éric Botorel et qui a fait un rapport, un long rapport, qu'il a remis. Il a auditionné des centaines de personnes, dont moi d'ailleurs, pour ce que j'avais fait sur le Covid. Et il a remis ce rapport au Premier ministre en décembre 2020. Et suite à la lecture de ce rapport, le Premier ministre a envoyé une circulaire il y a 2 ou 3 semaines pour demander aux différents ministères, en gros, de passer la seconde. Et donc, il leur a demandé de nommer un délégué ou un représentant qui s'occupera de l'open data dans chaque ministère. Et puis, il a demandé à chaque ministère d'établir la liste de toutes les données qui ne sont pas publiées et qui devraient l'être. Et ensuite, de prévoir un calendrier et de mettre en application la publication de ces données pour les prochains mois, les prochaines années. Je crois que les ministères devront faire cette liste pour juillet, pour la rentrée, je crois. Voilà. Donc, je pense que ça va évoluer. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va évoluer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Ouais, je pense que ça va évoluer. Et puis, c'est aussi une bonne nouvelle parce que je pense que tu es en train de démocratiser aussi par l'usage tout l'intérêt de l'open data. Hein, c'est permettre à d'autres de créer de la valeur et puis de remettre ça dans un bien commun. Donc, bravo pour ça. Je pense que ça fait bouger aussi beaucoup cet écosystème de l'open data en France et puis, j'espère, à l'étranger parce que je crois que ça a fait des petits, hein, c'est ça. Tu as des enfants, je crois, qui sont en Suède maintenant, c'est ça. Tu peux nous en parler?
Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est une personne qui nous a contactés et qui voulait adapter Vitmados pour la Suède. Et donc, cette personne l'a fait. Elle a adapté Vitmados pour la Suède. Donc, elle a réutilisé une partie de notre code, ce qui est tout à fait possible et encouragé même. Le code est disponible en open data, en open source, sur la plateforme GitHub. Et donc, chacun peut le consulter, le modifier ou le dupliquer pour en faire une version différente. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui a été fait. Donc, il a mis en place sa plateforme le week-end dernier, je crois. Alors, je vous prononcerai pas le nom, hein, parce que c'est en suédois, donc je vous laisserai aller voir. Voilà, c'est un design très similaire, évidemment, parce que ça reprend le code et ça permet de trouver un créneau de vaccination plus facilement en Suède. Donc nous, on est très heureux et fiers de voir que ça peut fonctionner dans d'autres pays. On a eu pas mal de demandes en Belgique et en Allemagne, mais bon, malheureusement, nous, on n'a pas les compétences pour faire des versions adaptées à l'Allemagne et à la Belgique. Mais si on a des Belges ou des Allemands qui nous écoutent ce matin, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de faire une version pour votre pays. C'est avec grand plaisir.
Bon ben voilà, c'est ouvert. Donc c'est non seulement open data, mais en plus open source. C'est magnifique. Tiens, il y a une question de Zougan qui est présent sur Twitter. Et te dit, tu travailles avec de nombreux bénévoles. Comment ça se passe concrètement? Vous faites comment pour bosser à distance, tous ensemble, être super bien synchronisés? Et en plus, vous êtes tous bénévoles. C'est un side project, c'est un projet en plus de votre travail de tous les jours. Vous faites comment pour travailler ensemble?
Bah alors après, en fait, je pense que ce qui est amusant avec ce projet, c'est que ça met en lumière ce qui est fait par des dizaines de milliers, de même même des centaines, mais peut-être même des millions de personnes chaque jour sur la Terre. C'est-à-dire, c'est le développement de projets open source à distance, à travers le monde, parfois dans des pays très très différents et de manière asynchrone. Et donc, il y a plein d'outils qui permettent, et puis il y a plein aussi de normes. Enfin, c'est assez normé, et donc c'est assez finalement assez facile de savoir comment contribuer. Évidemment, l'outil le plus important, c'est GitHub, qui permet donc, pour ceux qui ne connaissent pas, d'héberger du code informatique. Non seulement de l'héberger, mais aussi de travailler collaborativement sur ce code. Et donc d'apporter des modifications en communauté. Et c'est très important parce qu'il y a une partie de discussion qui est très importante. C'est-à-dire que quand on propose une modification de code, elle n'est pas immédiatement intégrée à la solution. Elle est ensuite discutée. Et donc il y a une conversation qui s'engage entre éventuellement des mainteneurs réguliers ou des administrateurs et la personne qui propose la modification qui donc critique dans les deux sens, hein, positivement et négativement le code qui a été modifié et qui discute du bien fondé, de la fonctionnalité, etc. Et puis ensuite la demande est acceptée ou rejetée suivant ce que pense la majorité. Et donc ça c'est un fonctionnement évidemment qu'on utilise. On utilise aussi un service de discussion en groupe qui s'appelle Mattermost, c'est un peu comme Slack hein, pour ceux qui connaissent, et donc qui permet de créer des chaînes de discussion autour d'un thème. Et donc en fait, on travaille de manière très asynchrone, et donc chacun, on discute beaucoup pour prendre des décisions, et chacun se porte volontaire pour développer telle ou telle partie. On a aussi des personnes qui ne sont pas développeurs, hein, par exemple en communication, relations presse, etc. Donc on utilise ça pour se coordonner. Ça nous arrive de faire des visios, enfin des réunions en visio de temps en temps, mais c'est difficile, hein, étant donné qu'on est une centaine, c'est difficile de trouver un créneau qui arrive à correspondre à tout le monde, et si chacun veut avoir la parole, ça met rapidement beaucoup de temps. Donc on le fait de temps en temps, mais on essaie de le faire pas trop souvent. On le fait quand vraiment il y a une grosse évolution, qu'il faut vraiment qu'on se synchronise, qu'on mobilise tout le monde, etc. Mais donc voilà, donc c'est un mode de travail très asynchrone et puis très participatif, ouvert aux volontaires. Hein, donc c'est à chacun aussi de s'impliquer, de proposer, d'être force de proposition. C'est un peu comme ça que fonctionne d'une manière générale le développement open source.
Patrick nous a rejoint, il a une question à te poser, il est sur Twitter Spaces. Bonjour Patrick.
Bonjour PPC, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Guillaume, moi j'ai une question, est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle et donc le machine learning pour le traitement des données ?
Alors merci beaucoup pour la question. Non, pour l'instant on n'utilise ni machine learning ni intelligence artificielle, tout simplement parce qu'on n'en a pas ressenti le besoin. Moi, je suis évidemment un fervent enthousiaste. Je suis de formation data scientist, et puis c'est mon métier aujourd'hui. Donc, je suis évidemment, extrêmement enthousiaste à propos de toutes les technologies, tous les algos qui peuvent être rassemblés sous le nom de machine learning ou intelligence artificielle. Mais je pense aussi qu'il faut les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un réel intérêt. Et ce n'est pas forcément nécessaire de sortir l'artillerie lourde quand on a besoin seulement de choses plus simples, plus rapides, plus faciles à maintenir, plus légères. Donc là, en l'occurrence, pour l'instant, on n'a pas ressenti le besoin. J'exclus pas qu'on en ressente le besoin un jour, peut-être, mais pour l'instant, on n'a pas ressenti le besoin. Voilà, donc on a tout simplement pas utilisé.
Et les données brutes que tu récupères, elles sont de bonne qualité ?
Oui, du coup, ça rejoint un peu la question. C'est, on n'a pas ressenti le besoin aussi parce que les données brutes étaient globalement de très bonne qualité. Faut savoir qu'il y a des systèmes d'information qui ont été développés exprès pour la pandémie, notamment qui s'appelle CDEP et qui permet de collecter des données de dépistage, hein, donc les cas, les nouveaux cas, les tests, enfin les résultats de tests. Un autre qui s'appelle VACCI et qui permet de collecter les données de vaccination. Et puis un autre qui s'appelle Civic et qui permet de collecter les données de sanitaires, donc les hospitalisations, réanimations, décès hospitaliers. Ces systèmes d'information ont été bien construits et donc ça permet de générer des données qui sont normalisées, qui sont de bonne qualité. Santé publique France s'occupe d'extraire ces données et de les publier dans un format qui est enfin, dans un bon format, hein, c'est-à-dire des fichiers CSV avec des données de bonne qualité, normalisées, sans données manquantes, etc., etc. Et donc voilà, on a de fait moins le besoin de préparer ces données, de les nettoyer. On le fait quand même, hein, parce qu'il faut quand même le faire, mais c'est voilà, c'est un besoin qui est moins lourd que ça ne pourrait l'être.
Et j'ai cru comprendre que pour Vitmados, tu utilisais du scrapping, parce qu'en fait, tu avais beaucoup d'API qui n'étaient pas disponibles chez les différentes plateformes. Donc voilà, c'est une question aussi. Tu utilises pas mal de scrapping?
Oui. Enfin, maintenant, non. Parce que maintenant, on a réussi à s'adapter avec les API de chaque plateforme. Mais au début, oui, au début, ça fonctionnait qu'avec du scrapping. Et puis du scrapping assez artisanal. Hein, c'est-à-dire que vraiment, on simulait presque le chargement d'une page sur Doctolib et on cliquait sur les boutons, etc. pour essayer de trouver les prochains créneaux de vaccination. Donc au début, c'est comme ça que ça fonctionnait. Ça mettait 5 heures pour mettre à jour toute la France uniquement pour Doctolib. Donc c'était assez long, c'était assez perfectible. On ne détectait pas toutes les possibilités, etc. Et puis ensuite, quand la centaine de bénévoles m'a rejoint, ils ont entièrement refait les algorithmes. Et donc, ils ont pu enquêter sur chaque plateforme pour essayer de trouver comment fonctionnait leur API. Et donc, depuis ce jour-là, on utilise leurs API directement pour détecter les créneaux disponibles. Et donc, ça permet d'être beaucoup plus rapide. On met à peu près une à deux minutes pour scanner toute la France, alors qu'il y a beaucoup plus de centres de vaccination qu'avant et qu'on supporte 6 plateformes, alors qu'avant, on supportait que Doctolib. Et donc, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus exhaustif. On a des données de bien meilleure qualité. Et puis, ça consomme moins de ressources aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, on fait plus vraiment de scrapping. On envoie des requêtes API.
OK. Ben, merci beaucoup pour ces questions, Patrick. Je vais passer le micro à Pierre qui nous a rejoint, qui a une question à te poser, Guillaume.
Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Guillaume. Je voulais te remercier pour deux choses. La première chose, c'est que tu fais partie avec Elias Orphelin et Pierre Papon, qui a fait un travail énorme lors du premier confinement de nous mettre au courant et de ce qui se passait par rapport au Covid. Ça, c'est la première chose. Ça nous a permis à tous de comprendre un petit peu mieux l'évolution de la pandémie. Et la deuxième chose, c'est je voulais te remercier parce qu'en fait, je te considère aujourd'hui comme ce qu'on appelle un hacker public. Et il y a eu un choc, tu en as parlé par rapport au rapport de Botrel, et effectivement, je crois que vers la mi-mai, il y a eu un décret du Premier ministre qui veut pour effectivement septembre que l'open data soit mis en place et pour action dès septembre. Et je pense que ça a été un choc salutaire parce que ça fait des années que plusieurs d'entre nous on travaille sur l'open data, surtout pour les services publics et la mise à disposition de ces données qui sont des données publiques, donc les nôtres. Et je voulais te remercier parce que parce que ce que tu as fait avec Covid, indépendamment que c'était quelque chose de salut public, on va dire, ou de santé publique, ça a permis de faire avancer le chimblic, comme on dit. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pierre, en retour. C'est avec plaisir si on peut aider. C'est vrai que je pense qu'en fait, Covid Tracker a été un peu médiatisé et c'est une preuve du bon fonctionnement de l'open data, vraiment du fonctionnement en entier de l'open data, c'est-à-dire d'un côté, l'État qui fait quelque chose qu'on n'est pas capable de faire et qu'on ne peut pas faire, nous, citoyens, qui est de collecter des données sensibles, des données de santé, de les agréger. Et puis des données qui sont, c'est du big data, quoi. Il y a beaucoup de données. Et donc ça, seul l'État peut faire ça. Par contre, ça montre que c'est très important ensuite que l'État publie ces données après les avoir agrégées, anonymisées, publie ces données d'une manière exhaustive, d'une manière fraîche, c'est-à-dire d'une manière régulière. Et puis comme ça, d'un autre côté, les citoyens ou alors d'autres administrations publiques ou des privés peuvent réutiliser ces données et en faire des outils innovants. Et donc, c'est vrai que je pense que, en tout cas, cette pandémie, même si, évidemment, elle a apporté beaucoup de choses négatives, elle leur a permis de montrer ça, je pense, de rendre tangible. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, hein, ça existe depuis très longtemps, mais je pense que ça a permis de le rendre tangible, de matérialiser et de montrer de façon plus directe les bénéfices. Et donc, j'espère que ça permettra aux personnes qui ne connaissaient pas l'open data de mieux en saisir l'intérêt pour les prochains mois, les prochaines années.
Et puis, je voudrais rajouter une chose, et je te rejoins là-dessus, c'est que les services de l'État et aussi de la territoriale sont excellents. C'est-à-dire que le travail, comme tu dis, il n'y a que l'État et la fonction publique qui peut le faire. Elle doit en être garant et les bases existent et le travail, les données qui sont collectées sont d'excellente qualité et ça depuis bien longtemps et ça il faut le reconnaître que ce boulot-là tout le monde ne peut pas le faire.
Merci beaucoup Pierre pour ces questions, merci Guillaume pour les réponses. Je vais passer le micro à Laura qui nous a rejoint en audio sur Twitter Spaces. Bonjour Laura.
Bonjour PPC, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors moi j'ai deux questions qui n'ont rien à voir. Je vais commencer par une question sur le soutien corporate, aussi bien de ton employeur que d'entreprise qui aurait voulu être mécène, parce que ça doit coûter quand même beaucoup d'argent. Tu as parlé de l'hébergement, hein, de la charge de consultation sur le site, etc. Est-ce qu'il y a eu du soutien corporate de ton employeur ou d'autres?
Alors, mon employeur, personnellement, qui est Octo Technologies, ne soutient pas de façon officielle l'initiative, hein, c'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas donné d'argent ou autre. Mais en revanche, ils me permettent personnellement une certaine flexibilité, donc flexibilité dans mon emploi du temps. Et puis aussi, ils me permettent quelques heures par semaine de pouvoir travailler sur ces différentes initiatives, mais dans le cadre de mon emploi, hein, donc rémunéré par Octo. Et donc, c'est une manière pour eux, en fait, de participer au projet qu'ils considèrent être d'utilité publique. Voilà, donc je tiens à les remercier pour ça. Ça me permet de concilier un peu mieux mon métier et puis ce side project. Ensuite, on a eu le soutien d'autres entreprises. Je tiens à être clair, aucune entreprise nous a donné de l'argent. On veut pas ça parce que ça pourrait poser des problèmes d'indépendance. Et donc aucune organisation, que ce soit publique ou privée, nous a donné de l'argent. Mais en revanche, on a des entreprises qui nous aident qui nous prêtent des services ou du matériel. En l'occurrence, on peut citer OVH qui nous prête un serveur. Alors on paye hein, certains de nos serveurs, mais il y en a d'autres, notamment pour Vitmados, ils nous prêtent un serveur qui est plus costaud, qui est plus gros, qui nous permet de faire tourner les algorithmes qui sont plus gourmands en ressources, qui permettent de détecter les créneaux disponibles, donc ils nous prêtent un serveur. On a Sarbacane, un outil d'emailing qui nous permet d'envoyer des newsletters et donc qui nous a fait une offre sur l'abonnement. Donc voilà, on a différents services qui nous ont proposé leur aide. Ça nous permet de joindre les deux bouts plus facilement. Mais nous on a eu un requirement, c'est à chaque fois qu'on a une proposition, parce qu'on a eu beaucoup de propositions d'entreprises, enfin on a eu beaucoup de propositions tout court, des propositions de par exemple pour mettre des pubs sur le site, de faire du placement de produits ou alors du mécénat comme c'est le cas. On a des entreprises qui nous ont proposé de l'argent et on n'a pas accepté parce qu'on voilà, on considère que ça propose que ça engendre des problèmes d'indépendance. Et aussi, on refuse les entreprises qui proposent de nous aider, donc pas financièrement, hein, mais avec des services, qui proposent de nous aider en contrepartie d'une communication. Donc on tient à ça aussi, c'est-à-dire que si les entreprises veulent nous aider, eh bien, elles veulent nous aider, point, c'est tout, c'est pour nous aider. Et après, nous, on décide si on a envie de communiquer ou pas pour les remercier. Spoiler, on l'a fait à chaque fois hein, pour l'instant. À chaque fois, on les a remerciés ensuite publiquement. Mais voilà, donc on tient à ça. Donc oui, il y a des entreprises qui nous ont soutenus.
Merci. Et ma deuxième question, elle n'a rien à voir. C'est est-ce que tu t'étais attendu à l'ampleur et comment tu le vis, toute cette attention?
Pas du tout. Enfin, je m'y attendais vraiment pas du tout. Je pense que... Enfin, on peut le comprendre quand j'ai expliqué l'histoire du projet. Hein, ça a débuté en mars 2020. En septembre, octobre, je ne prenais toujours pas l'initiative au sérieux. Donc même en septembre, octobre, ce qui était assez tard, je ne pensais pas que ça pourrait ensuite donner ce que ça a donné aujourd'hui. Ce n'était pas du tout prévu. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait quelques vues, quelques dizaines de vues tout au plus. Que, voilà, c'est absolument incroyable. Tant mieux. Enfin, évidemment, j'aurais préféré que ça arrive dans un autre contexte. Mais tant mieux si c'est utile, si ça peut aider les gens à mieux comprendre l'épidémie, à mieux suivre l'épidémie et donc à mieux lutter contre l'épidémie. Si ça peut aider les gens à trouver un créneau de vaccination, à faciliter l'accès à la vaccination et donc si ça peut à la fois inciter les gens à se faire vacciner Et d'autre part, si ça peut permettre d'accélérer la campagne de vaccination en optimisant vraiment l'injection de chaque dose qui a été livrée, évidemment que voilà que nous ça nous rend très heureux. On est hyper content de ça. Comment je le vis? Alors c'est pas à quoi tu fais référence. Si c'est à la partie plus médiatique.
Oui c'est ça.
Écoute, moi un an j'étais étudiant dans mon coin, presque un peu timide. Enfin voilà, donc j'étais pas du tout prédestiné à aller un jour sur un plateau télé ou à la radio. Ou qu'on fasse un portrait de moi, enfin voilà. Donc aujourd'hui, c'est devenu presque mon quotidien. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, parce que on voit pas, mais il y a toute la partie avant, il y a la partie relation avec le média qui invite, qui propose un horaire, enfin voilà, où il y a plusieurs échanges d'appels. Après, il y a l'intervention en elle-même, que ce soit à la télé où il faut se déplacer, donc parfois une heure ou autre, parfois à la radio, ou que ce soit une interview pour la presse écrite ou pour la presse web ou autre, donc ça prend du temps. Tout ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est la pression. Donc, je fais aussi baisser la pression. En ce moment, je refuse beaucoup d'interventions, notamment sur les chaînes d'infos en continu qui sont très, très demandeuses. Et donc, je fais maintenant les émissions inédites, enfin, les émissions que j'avais jamais faites ou sur des chaînes où j'étais jamais allé. Mais donc, comment je le vis? Plutôt bien. Je l'ai dit, hein, c'est beaucoup de pression, c'est du stress quand même, mais sinon, voilà, je le vis assez bien, je m'y suis fait. Et je m'impose des barrières, quoi. C'est ça qui me permet vraiment de garder un équilibre. Et donc, les journalistes, des fois, râlent un peu parce que je mets du temps à répondre. Quand ils m'envoient un SMS, qu'ils m'appellent ou autre, mais c'est aussi, j'ai pas de cabinet, j'ai pas d'assistant, donc c'est aussi ma manière de gérer le truc sans péter un câble, hein, pour dire comme ça. Et c'est un moyen pour moi de faire baisser la pression.
Enfin, moi, je suis très très heureux que tu te sois rendu disponible pour nous. Je sais que tu es très sollicité, c'est adorable. Il te reste combien de temps, juste pour savoir, parce que je sais que ton temps est très compté, parce qu'on a plein de questions encore. Donc voilà, c'est toi qui donne le tempo. T'as encore un petit peu de temps?
Je regarde, mais ça va, ouais.
Ah bah alors, on continue. Alors déjà, t'as un commentaire très sympa d'Éric Botorel. Voilà, donc c'est le monsieur dont on nous parlait tout à l'heure, hein, qui a fait la mission, notamment Open Data, qui dit « Salut Guillaume, il est sur YouTube. Merci pour tout. En fait, au-delà de l'Open Data, on a progressé aussi sur les sujets de données d'intérêt général grâce à toi, nous dit-il, même s'il en reste beaucoup à faire. Et tu l'as abordé sur les données d'intérêt général et l'ouverture des API, des interfaces de prise de rendez-vous privé accomplissant une mission de service public. » Donc, tu as accompli une mission de service public. Hein. C'est bien pour ça qu'on t'a proposé. Tu vas devenir chevalier de l'Ordre national du mérite. Moi, j'ai une question pour toi. Quand tu as appris ça, il se passe quoi dans ta tête quand tu apprends que tu vas devenir chevalier de l'Ordre national du mérite?
Déjà, je l'ai appris. Je l'ai appris dans les médias samedi matin. Hein, donc, je me suis levé et j'ai reçu une notification. Guillaume Rossi va être nommé chevalier de l'Ordre national du mérite. Donc c'était assez surprenant pour moi de l'apprendre de cette manière. Ensuite, bon, on en parlait quand même, c'était la question que me posaient tous les journalistes depuis 2 ou 3 semaines. Alors Guillaume Rosier, est-ce que vous allez recevoir la Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite? Donc j'étais psychologiquement préparé, même si je ne savais pas si ça allait arriver un jour ou pas, mais j'étais quand même psychologiquement préparé. Maintenant, quelle était ma réaction? Ça me fait évidemment très plaisir. C'est un honneur, je pense. Pour chaque citoyen, de recevoir une distinction officielle, aussi haute, aussi reconnue. Moi, j'imaginais de ma vie un jour recevoir une telle distinction. Donc, c'est un honneur. C'est un grand plaisir, c'est un honneur. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a, on l'a beaucoup dit, mais il y a une centaine de bénévoles derrière. Donc, évidemment, cette distinction, on l'aurait aussi dédiée, on l'aurait partagée. Et puis aussi, cette distinction n'est pas une fin en soi. Ça n'était pas du tout un objectif. Notre objectif, c'est être utile, aider à lutter contre l'épidémie, aider à en finir plus rapidement. Et donc, ça ne marque pas la fin de notre travail. Ce n'est pas une fin en soi, même si ça nous fait très plaisir et ça nous honore. On ne va pas se reposer sur nos acquis. Évidemment, je pensais pas, pour moi, c'est inimaginable de recevoir une telle distinction, quoi. Et j'ai encore très peu d'informations, hein, je sais pas du tout, c'est la grande chancellerie qui a proposé de me nommer chevalier de l'Ordre national du mérite. Mais donc pour l'instant, je ne suis pas, enfin je crois pas. Je crois qu'il faut une cérémonie, etc. Mais donc je ne sais pas du tout comment ça va avoir lieu et quand.
D'accord, mais enfin c'est quand même passé au journal officiel, hein, si j'ai bien suivi, oui, samedi, impressionnant. Tu as une question de Pierre, Pierre de la Touche, il nous dit, est-ce que le développement de Covid Tracker n'est pas un moyen de rendre accessible au grand public la notion de data scientist et son utilité? Autrement dit, est-ce que les parents, les oncles, les tantes de data scientist savent désormais exactement ce que font leurs neveux, leurs nièces, grâce à toi désormais? Qu'est-ce que tu en penses? Tu as fait aussi œuvre d'expliquer ce qu'est ce métier de data scientist?
Ouais. Ouais, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté, qui sont au lycée, qui sont en études supérieures, et qui me disent, bah, je veux être data scientist, ou alors je suis en train de devenir data scientist, et qui me demandent des conseils de formation, des conseils de parcours, des conseils de technologie, des conseils d'entreprise, plein de choses. Donc, j'ai l'impression que ça suscite des vocations. Si c'est le cas, tant mieux, parce que c'est un métier qui mérite d'être plus connu, je pense. C'est un métier qui est très important et d'une manière générale, hein, on parle beaucoup du data scientist, mais c'est vraiment tous les ingénieurs, toutes les personnes qui travaillent sur la chaîne de la donnée, c'est-à-dire de la collecte de la donnée informatique jusqu'à sa restitution, son utilisation finale. Et donc, on a plusieurs métiers tout au long de cette chaîne de la donnée. Et donc, je pense que ces métiers sont très importants. Aujourd'hui, on fait face à une pénurie de main-d'œuvre, une pénurie d'ingénieurs en informatique, d'une manière générale, et notamment dans la data. Toutes les entreprises collectent des données, absolument toutes, quasiment tous les objets qu'on utilise au quotidien maintenant collectent des données, et massivement. Tous nos appareils du quotidien ont des capteurs. Ces capteurs collectent, malgré eux, des données en permanence. Et puis en fait, on se rend compte que la plupart de ces données sont pas utilisées ou alors sont sous-utilisées. Et on commence à se rendre compte que si on les utilise un peu plus, notamment grâce à des méthodes émergentes, hein, comme ce qu'on rassemble beaucoup sous les buzzwords intelligence artificielle, deep learning, machine learning, classification, etc., on se rend compte que si on appliquait ces méthodes-là sur ces données, on pouvait faire des choses très intelligentes et très utiles. Et donc les entreprises sont en train de se rendre compte de ça et du coup ont besoin de beaucoup de main d'œuvre, de beaucoup d'ingénieurs et de techniciens, etc. pour formaliser ces données, pour les stocker d'une manière plus intelligente, pour générer des flux de données, pour créer des applications, des logiciels, des algorithmes qui vont traiter ces données, pour faire des tableaux de bord, pour analyser ces données, pour prendre des décisions à partir de ces données. Voilà, et donc je pense que c'est très important. Moi je pense que mon vœu en tout cas, c'est que la France devienne un leader européen de l'open data, donc de la publication des données d'une manière libre. Et donc ce serait bien aussi que la France soit ensuite le leader de la réutilisation des données. Et donc qu'on ait des formations pointues et des ingénieurs pointus dans ces domaines-là. Qui soit capable de traiter toutes ces données de façon la plus intelligente possible.
Sarah nous a rejoint, je lui passe le micro. Bonjour Sarah.
Bonjour PPC, salut Guillaume, bonjour à tous et à toutes. Déjà merci d'être venu, hein, Guillaume. On est tous en train de kiffer ce moment depuis 7h30, donc merci beaucoup. Je t'entends souvent dire que ton objectif et celui de tous les collaborateurs qui travaillent avec toi, c'est d'avoir zéro visiteur sur le site et zéro téléchargement de Vitmadose. Donc je me demande, une fois que cet objectif sera atteint, comment tu imagines la suite? Est-ce que tu es en train de réfléchir à de nouveaux produits? Est-ce que tu as d'autres idées en tête ou tu n'y penses pas encore pour l'instant?
Alors merci beaucoup pour la question. Alors en ce moment, on est quand même très focus sur ce qu'on développe actuellement. On passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, notamment sur Vitmadose pour le faire évoluer. Que ça corresponde aux besoins, surtout que là on est en train de vraiment de changer de paradigme. Jusque là l'objectif c'était de trouver une dose de vaccin, maintenant ça va être de trouver une dose de vaccin au bon lieu, donc proche de chez soi et à la bonne heure en fonction de son travail, etc. Donc on a beaucoup de ça nous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, ce qui me laisse un peu moins de temps et d'énergie pour penser à la suite. Alors évidemment, je réitère notre objectif d'avoir zéro vue sur l'ensemble de notre plateforme avant la fin de l'année. Ça, c'est mon objectif. On n'aura aucun scrupule à les fermer, à fermer Covid Tracker, à fermer Vitmados et toutes les autres lorsque il n'y en aura plus besoin. Donc, j'espère que ça arrivera le plus vite possible. Pour la suite, j'ai aucune idée. En tout cas, enfin, moi, je veux pas créer quelque chose pour créer quelque chose. Si un jour je crée quelque chose d'autre, c'est pour être utile. Donc, il faut que ça réponde à une problématique qui est réelle. Que ça résolve un problème, que ça réponde à une question auquel tout le monde se pose. Pour l'instant, c'est ce qu'on a essayé de faire. Enfin, je pense que c'est ce qu'on a fait avec les différents outils. Hein. Vitmados, la question, c'est comment trouver une dose de vaccin. Covid Tracker, c'est comment suivre l'épidémie. Est-ce que la situation est grave? Vaccin Tracker, c'est est-ce que la campagne de vaccination va assez vite? Covid risque, c'est est-ce que je peux faire un repas, est-ce que c'est risqué de faire un repas avec d'autres personnes en période Covid dans mon département. Donc en fait, je pense que chaque outil répond vraiment à une problématique qui est réelle et qui est importante, qui impacte nos vies. Et donc à l'avenir, j'exclus pas du tout de faire autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses très belles qui peuvent être faites, mais il faut que ça ait une réelle utilité. Et puis ça va dépendre aussi, finalement, la clé de voûte dans tout ça, c'est la publication des données par les différentes administrations. Et donc ça va dépendre de ça aussi, ça va dépendre des données qui sont disponibles à l'instant T. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment très important que toutes les administrations publient toutes les données qu'elles ont en leur disposition. À leur disposition, c'est aussi très important que les entreprises privées partagent des données, hein. C'est très important aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui doivent partager un certain nombre de données. Évidemment, là, on ne parle pas du tout de données privées, hein, de données. Il faut que ça respecte un cadre très, très strict qui ne permette pas la réidentification des personnes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de données qui peuvent être partagées tout en respectant ce cadre très strict, notamment des données statistiques, des données agrégées géographiquement, temporellement, qui permettront, je pense, de faire des choses très belles. Le plus important, je pense que là où les données gagnent beaucoup de valeur, c'est lorsqu'elles sont mises en parallèle. C'est lorsque plusieurs jeux de données qui n'ont a priori rien à voir entre eux, qui viennent de sources différentes, d'organisations différentes, lorsque ces jeux de données sont mis en parallèle, et donc là, on peut former des synergies qui permettent de faire apparaître des cas d'utilisation qui sont extrêmement intéressants. Donc, pour répondre à la question, je ne sais pas encore.
On a hâte de voir aussi. Tiens, Aurélien nous a rejoint, il est sur YouTube. Il te pose la question suivante. Est-ce que tu comptes aider l'État dans sa stratégie data? Aurélien a l'impression qu'on avance, que ce soit dans la digitalisation ou dans l'open data, mais ton statut pourrait faire bouger les choses. Est-ce que tu comptes aider l'État? Tu as ça en tête ou pas du tout?
Je le fais un petit peu, non, déjà. En demandant plutôt, à l'État de faire certaines, enfin déjà en épaulant l'État, en ayant fait des outils, hein, qui sont de services publics et qui permettent d'aider les citoyens. Je pense que voilà, on aide déjà un peu l'État. Ensuite en l'incitant à publier les données en open data, on aide aussi l'État, hein, parce que ensuite il faut savoir que la publication en open data, ça profite aux citoyens, ça profite aux organisations privées, mais en fin de compte, ça profite aussi à l'État. Donc c'est un retour de boomerang. Aujourd'hui, on voit des données qui sont publiées. Exemple très simple, les Covid Tracker. Hein, les données sont publiées par l'État en open data. Covid Tracker réutilise ces données et ensuite l'État réutilise Covid Tracker. Notamment, par exemple, le président de la République utilise Covid Tracker. Jean Castex utilise Covid Tracker en conférence de presse. Un certain nombre de ministres, etc. L'INSERM, enfin voilà. Donc finalement, on a un retour de boomerang. Hein. L'État publie des données qui sont ensuite réutilisées et l'État utilise les réutilisations de données. Et donc finalement, on aide déjà un peu l'État. Maintenant, oui, enfin évidemment, moi je vais aider au maximum l'État pour effectuer cette transition. Et je veux l'aider absolument partout là où je peux l'aider. Mais voilà, ça va être limité à mon champ de compétences. Et puis, je veux l'aider de manière utile et surtout efficace. Je ne sais pas encore quelle forme ça prendra dans les prochains mois, mais je vais faire en sorte que je puisse l'aider au maximum.
Ta grosse envie maintenant, là, tes futurs projets, tu en as qui pointent le nez quand une fois qu'il y aura le zéro connexion sur tous ces sites. T'as déjà des choses en tête ou c'est trop tôt?
Évidemment, j'ai quelques idées, mais en fait, les idées changent tellement vite. Ça dépend de l'actualité, ça dépend des grands enjeux du moment. C'est difficile d'anticiper plusieurs mois, un an, deux ans en avance. Évidemment, il y a des thèmes qui sont particulièrement importants. Hein. On pense notamment à la transition énergétique, enfin au suivi de la consommation énergétique, à la transition énergétique, à l'écologie. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'économie, il y a beaucoup de choses à faire dans la santé aussi, parce que là on parle de l'épidémie, mais si on élargissait ça d'une manière plus globale à toute la santé, il y aurait des très belles choses à faire. Au transport, enfin franchement, il y a énormément de domaines, donc aujourd'hui c'est difficile de répondre à la question.
Ok, bah ça nous laisse des champs des possibles ouverts, hein, en tout cas. Bon, eh ben écoute, moi on va arrêter cette émission, mais enfin bon, quelle tristesse, c'est un vrai bonheur, tu es à table ouverte quand tu veux le matin. Je ne sais pas quelle est ton expérience. On a une coutume, et alors on va faire le rôti. On a une coutume dans ce podcast, c'est on fait un rôti avec toutes celles et tous ceux qui ont participé. Donc, si vous avez trouvé ça canonissime, génial, vous mettez 5, des étoiles dans tous les sens. Si vous avez trouvé ça nul, vous mettez 1. Vous ne revenez plus jamais, c'est pas grave, on s'aime quand même. Voilà, c'est très simple. Je vais demander à tous ceux qui sont sur Spécis d'appuyer sur le petit cœur qui est en bas et de faire un festival de couleurs. Et puis, toutes celles et tous ceux qui sont présents sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch, allez-y, lâchez-vous, on fait le rôti de notre ami Guillaume. Et puis toi, j'aimerais avoir ton retour, Guillaume, pendant que nos amis mettent leur rôti. Tu as pensé quoi de cet exercice du matin? C'est pas trop tôt, ça va?
Ouais, non, ça va, c'est très cool. Alors moi, je peux pas faire de rôti, hein, je crois, je peux pas mettre de message, alors j'ai pas trouvé comment.
Oh, tu peux appuyer sur le petit cœur et mettre un sang, mais voilà, mais ton propre retour.
Mettre un sang.
Ouais, ton retour en on-time invested, puisque ton temps est très compté. Merci d'avoir pris cette parenthèse. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Ah bah, c'était hyper cool. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, c'est très agréable pour moi. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ce sur quoi j'ai travaillé ces derniers mois et de faire connaître les métiers de la chaîne de données, donc notamment de data scientist. C'est un plaisir pour moi de faire connaître l'open data aussi, puisque certaines personnes ne connaissent pas encore ou ne sont pas forcément convaincues de son utilité, de son côté crucial et très important. Pour moi, c'est un grand plaisir de montrer au grand public ces différents domaines, et c'est aussi un immense plaisir d'interagir, de répondre aux questions. Donc pour moi, c'était vraiment un grand plaisir, et donc un rôti de 5 sur 5
canon.
Pour ce matin. Donc merci beaucoup pour l'invitation.
Moi j'ai fait un rôti de 5000.
C'est hyper agréable en tout cas d'y participer.
Je te mets un rôti de 5000 parce que j'ai pris un pied terrible, j'adore l'open data, tu le sais. Et franchement, merci infiniment de ta présence. Toi qui écoutes ce podcast sur les plateformes traditionnelles de baladodiffusion, cet épisode est maintenant terminé. Voilà, si tu as aimé, tu n'hésites pas à t'abonner sur la chaîne, voilà, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, ce que tu as. Mais si tu es sur Apple Podcast, tu n'hésites pas à mettre 5 étoiles, c'est super important pour l'algorithme. Alors si tu mets un commentaire, c'est juste du bonheur, on va pouvoir monter dans les classements. Voilà, c'est la fête. Mille merci à toi. Allez, ciao ciao.